J'ai donc donné comme titre à ce travail les chambres noires du roman Zola et la photographie. En fait, le temps étant compté, je ne présenterai qu'un certain nombre de fragments de ce travail, de passages. Je résumerai d'autres parties. Dans la curée, quand René et Maxime, les jours de pluie, s'ennuient trop dans le fastueux hôtel du parc Monceau, vous en souvenez, ils finissent toujours par feuilleter le grand album de photographie, cet inépuisable sujet de conversation et de médisance. Comparant donc et évaluant, enfin connaisseurs des corps et des plaisirs, les charmes et surtout les défauts de leurs amis intimes et des filles de Paris, les cheveux de l'écrevisse, le double menton de Madame de Meinhold, les yeux de Madame de Lowerhans, la gorge de Blanche Muller, le nez de la marquise qui était un peu de travers, la bouche de la petite Sylvia, célèbre par ses lèvres trop fortes. Et la belle Renée de voluptueusement s'abîmer dans une contemplation détaillée et perverse, attentive et impitoyable de toutes ces figures blêmes, souriantes ou revêches, que contenait l'album. Un jour même, elle se fit apporter une forte loupe parce qu'elle croit avoir aperçu une espèce de petit fil sur une des photos. Et en effet, la loupe montra le nez de l'écran. La loupe montra un léger fil d'or qui s'était égaré des sourcils et qui était descendu jusqu'au milieu du nez. Ce poil les amusa longtemps. Pendant une semaine, les dames qui vinrent durent s'amuser par elles-mêmes. De la présence du poil, la loupe servit dès lors à éplucher les figures des femmes. Renée fit des découvertes étonnantes. Elle trouva des rides inconnues, des peaux rudes, des trous mal bouchés par la poudre de riz. Et Maxime finit par cacher la loupe en déclarant qu'il ne fallait pas se dégoûter comme cela de la figure humaine. La vérité est qu'elle soumettait à un examen trop rigoureux les lèvres de la grosse Sylvia pour laquelle il avait une tendresse particulière. Rien de plus fascinant donc aux yeux de Renée que ces indiscrets portraits photographiques, car ils en disent long et même beaucoup trop long, car ils révèlent excessivement et caricaturalement les petits tares de leurs modèles. Ils les manifestent, les dévoilent tels qu'habituellement on ne les voit pas dans la vie quotidienne. Au point que de tels clichés ne sont pas loin de dérégler, de déstabiliser la ressemblance à soi-même et donc l'identité, en séparant le sujet de son image, en le rendant quasiment méconnaissable aux yeux des autres et à ses propres yeux. Photographiées, les filles à la mode ne se ressemblent plus vraiment, tant les clichés avouent ce qu'elles voudraient bien cacher, ce qu'elles s'efforcent de masquer, de maquiller. Puisque Maxime ne saurait plus longtemps accepter que la photographie ne serve en dernière instance qu'à défigurer, en amplifiant les plus disgracieuses de nos particularités physiques, qu'à nous empêcher de reconnaître les autres systématiquement en lady et du même coup de nous reconnaître nous-mêmes, dans notre propre image, en nous dégoûtant par avance de toutes ces irrégularités qui constituent n'importe quel visage, n'importe quel corps, on a bientôt inventé un nouveau jeu, encore moins innocent. Ils posaient cette question, avec qui passerais-je volontiers une nuit? Et ils ouvraient l'album qui était chargé de la réponse. Cela donnait lieu à des accouplements très réjouissants. Ce qu'autorise alors l'aléatoire ouverture de l'album photographique, c'est une variante absolument inédite et délicieusement vicieuse du fort célèbre et fort moral jeu des sept familles, puisque loin d'harmonieusement rassembler les parents disjoints par le hasard de la distribution des cartes, elle propose de nouvelles combinaisons sexuelles, d'autant plus divertissantes qu'inattendues et scabreuses. Elle fait brutalement surgir des couples imprévisibles, inouïs, surtout lorsque le hasard conjoint contre nature des personnages du même sexe. Avec la photographie, de même qu'on se dissemble physiquement, on se désassemble conjugalement. Faut-il souligner qu'il n'est rien de moins innocent que ce jeu des couples photographiques dans un roman qui est justement celui de l'inceste, de la pire perversion du dispositif conjugal et filial. D'ailleurs, quand le sort veut qu'en ouvrant n'importe quelle page l'album, Renée retombe sur son mari, lui-même, elle ne manque pas d'être frustrée, désolée, une déception symptomatique ou combien pour la fiction. Toutes les photographies seront donc maléfiques, néfastes dans la curée. Absolument toutes. C'est-à-dire non seulement les photographies explicites de l'album, celles qui sont désignées et existent effectivement en tant que telles, mais aussi et surtout ces photographies virtuelles que produit, que développe si souvent le texte zolien, chaque fois qu'il installera le surgissement, la remontée d'une image dans le cadre d'une pièce plus ou moins obscure qui fait alors office de chambre noire. Car si l'on dénombre finalement fort peu de clichés en tant que tels dans l'ensemble des Rougon-Macquart, où la peinture est bien sûr prioritaire, on y remarque par contre énormément de pièces obscures, de chambres noires où s'effectuent des opérations déjà éminemment photographiques. En somme, le texte zolien contient beaucoup plus de photographiques que de photographies. S'il est vrai qu'il ne mentionne qu'assez rarement des clichés effectifs, En revanche, il adopte souvent un mode de fonctionnement proprement photographique. Loin de n'être parmi tant d'autres qu'un objet de la fable, la photographie vaudra ici comme processus textuel dans la mesure où, dans maintes descriptions, elle régit l'optique romanesque. Chez Zola, le dispositif descriptif est fréquemment un appareil photographique, parfaitement identifiable, même s'il ne s'avoue pas en tant que tel. En effet, rien de plus fréquent dans tous ses romans que la description d'une pièce, avec une fenêtre par où la lumière pénètre plus ou moins largement, c'est déjà le principe même du diaphragme, et que la constitution d'une image dans cette enceinte. En milieu zolien, l'activité imageante n'est jamais séparable des ténèbres originelles. La représentation nécessite toujours, au préalable, la mise en place d'une boîte optique. Donc, en son fonctionnement même, le texte zolien est structurellement photographique, bien avant que l'écrivain ne se consacre à la photographie. Depuis toujours, Zola tire ses descriptions, au moins en tant qu'il ne les écrit. À titre de confirmation, pour aller très vite, valant pour toutes les autres, souvenez-vous par exemple de cette superbe chambre noire qui figure dans La Bête humaine, alors que pendant toute la nuit, Jacques a été affreusement obsédé par l'horrible désir du meurtre. Ce ne fut pas avant 7 heures, je cite, donc ce ne fut pas avant 7 heures passées qu'il vit blanchir les vitres, une pâleur laiteuse, très lente, enfin la chambre s'éclaira de cette lumière confuse où les meubles semblaient flotter, le poêle reparut, l'armoire, le buffet. Il ne pouvait toujours fermer les paupières, ses yeux au contraire s'irritaient dans un besoin de voir, tout de suite, avant même qu'il ne fît assez clair, il avait plutôt deviné qu'aperçu sur la table le couteau dont il s'était servi le soir pour couper le gâteau. Il ne voyait plus que ce couteau, un petit couteau à bout pointu. Le jour qui grandissait, toute la lumière blanche des deux fenêtres n'entrait maintenant que pour se refléter dans cette mince lame. Tout y est, on pourrait le détailler, la clôture de la pièce encore sombre, mais s'éclairant progressivement, la lumière de l'extérieur pénétrant par la fenêtre comme par l'objectif et venant se refléter sur la mince surface réfléchissante du couteau comme sur une plaque de verre photosensibilisée. Sinon, accuré, les clichés effectifs n'ont pour fonction que d'intensifier la perversité ambiante. Les photographies virtuelles ne se révèlent pas moins négatives et destructrices. Ainsi, au moment le plus dramatique de tout le roman, quand Saccard vient de découvrir que son épouse le trompait avec son propre fils, vous en souvenez, terrible colère, mais colère qui s'apaise immédiatement quand il s'aperçoit que le contrat indispensable pour le sauver de la faillite vient d'être signé. Il est donc rassuré, rassénéré, il s'éloigne avec Maxime comme si de rien ne s'était passé, et René, épouvanté, reste alors seul dans son cabinet de toilette. D'autant plus effrayé et affolé que la haute glace de l'armoire, après avoir révélé et photographié le scandale de son impudicité, après lui avoir renvoyé l'insupportable image de sa nudité et de son obscénité, va reproduire ceux qui viennent de lâchement l'abandonner, va faire revenir une horrible photo de famille, manifestant et dénonçant sa turpitude. Je cite, « Dans l'ombre bleuâtre de la glace, elle crut voir se lever les figures de Saccard et de Maxime, le père et le fils qui furent tous les deux ses amants. » Tout se passe donc comme si l'intimité de la pièce fonctionnait à nouveau comme un grand appareil photographique, produisant dans le miroir un ignoble portrait de famille. Est-il besoin de souligner qu'une telle apparition des Saccard père et fils est d'autant plus photographique qu'elle remonte justement du fond du miroir. À l'origine, les daguerréotypes fascinaient d'autant plus qu'ils n'étaient autres que des plaques de verre argenté conservant le reflet évanescent du modèle. Le teint du miroir retient l'image du visage. Un vieux rêve de l'homme se réalise, la plaque matérialise ce spectre impalpable qui s'évanouit aussitôt sans laisser une ombre au cristal du miroir. Et le succès du daguerréotype ne tient-il pas précisément à cette proximité avec la glace étamée? En somme, cette quasi-photographie du miroir, à laquelle il ne manque que le support du papier pour définitivement se fixer et perdurer, n'a pour fonction que d'accentuer l'évidence du désastre familial. Elle le renforce, le fait passer à l'acte, en lui conférant l'incontestable visibilité de l'image. Bien des années passeront, quasiment toute la durée de l'élaboration des Rougon-Macquart, avant que puisse se manifester une autre apparition photographique dans la glace, qui, tout en fonctionnant exactement selon les mêmes protocoles et le même dispositif, aura par contre une toute autre valeur, cette fois éminemment positive. À nouveau dans l'enceinte d'une pièce, à nouveau dans un miroir, un portrait de famille va remonter, tout à la fin du docteur Pascal. Clotilde est rentrée précipitamment à Plassans, mais il est trop tard, Pascal est déjà mort. Seule, elle veille le mort dans la chambre qui abrita il n'y a pas si longtemps leur merveilleux bonheur. Et voici donc que leur image conjointe, remonte dans le miroir. Leurs deux images lui semblèrent renaître du fond argenté et pâle de la grande psyché. Elles s'avançaient indécises, presque confondues, avec un flottant sourire comme au jour ravi où il l'amenait là pour l'appareil de quelques bijoux, un cadeau qu'il cachait depuis le matin dans sa folie du don. Comment ne pas mettre en parallèle, pour mieux les opposer, ces deux apparitions à 20 ans de distance dans la curée et dans le docteur Pascal, identiques du point de vue de leur même surgissement dans une glace à l'intérieur d'une pièce, mais en fait combien dissemblables et même antithétiques d'un point de vue familial. Car l'infâme et déshonorante apparition des Saccard père et fils, contrefaisant et parodiant ignominieusement ce que devrait être une bonne, entre guillemets, photo de famille, s'oppose la merveilleuse photographie virtuelle et rétrospective du couple parfait que constituèrent Pascal et Clotilde. Loin d'exposer, de dénoncer la défaillance du familial, désormais la photographie du miroir restaure le couple dans son intégrité, répare et même annule cette séparation que seule la mort pouvait sembler rendre inéluctablement définitive. Photographiés et réunis par la surface argentée de la grande glace, Pascal et Clotilde sont redevenus inséparables. Décidément, quand Émile Zola écrit La Curée, qui sera publiée dès novembre 71, c'est-à-dire bien avant, une vingtaine d'années avant qu'il ne se lance personnellement dans la photographie, Zola, à la date, ne croit nullement aux bénéfices mimétiques et familiaux du geste photographique. Non seulement la photographie défigure, elle fracture l'illusion de la ressemblance à soi-même, mais en outre, elle dépareille les couples, les disjoint, elle offre ludiquement l'occasion de briser les liens établis au profit de nouvelles relations d'autant plus réjouissantes que saugrenues. Il n'en demeure pas moins que la photographie, dans l'imaginaire zolien, se situe immédiatement, bien avant que les bénéfices qu'on est en droit d'en espérer aient été repérés et cernés, se situe donc immédiatement au confluent de la ressemblance et de l'accouplement, au confluent de la mimésis et de la famille. Explicitement présente dans le romanesque des Rougon-Macquart dès le deuxième volume de la série, elle est déjà installée en ce lieu simultanément mimétique et familial qui lui assurera ses futurs prestiges, même si pour l'instant elle ne possède pas l'ombre d'une positivité. S'il est vrai qu'elle occupe déjà une position stratégique et décisive du point de vue de l'imaginaire, cependant, elle ne règle pour l'instant aucun problème, au contraire, elle ne fait que les accentuer, les aggraver, les vicier. À lire La Curée, il est impossible de croire qu'à la date, l'écrivain accorde la moindre confiance, le moindre crédit au geste photographique. Et il devient déjà prévisible que sa future pratique photographique ne pourra pas être conforme à ce que fut autrefois son écriture romanesque. Toujours déjà en attente, en réserve dans le texte zolien, parce qu'elle se situe au carrefour de ses principaux enjeux, toujours déjà présente et même quasiment programmée par l'optique descriptive elle-même, la photographie ne pourra être véritablement valorisée qu'à condition de passer des Rougon-Macquart aux quatre évangiles. Car si l'on examine globalement l'ensemble de la production photographique d'Émile Zola, rapidement s'impose une incontournable évidence. On ne peut guère la qualifier de naturaliste, entre guillemets, au sens le plus général du terme. À moins de vouloir s'obstiner à homogénéiser les différentes pratiques esthétiques d'un même sujet, il faut avant tout convenir que les photographies de Zola, dont il n'a pas de souligner qu'elles constituent avant tout une activité privée, les photos de Zola sont loin d'être conformes aux images que conserve n'importe quel lecteur de sa traversée des Rougon-Macquart. En fait, rien ne témoigne vraiment de la dureté de l'existence, de la cruauté du réel, des violences du social, dans tous ces clichés finalement sereins et apaisés. Rien ne vient véritablement troubler et déranger leurs spectateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Joyeuses photos de vacances avec les amis, 12 photos des visites, des intimes à mes dents, le jeu de croquet, l'heure du thé, tranquilles photos des bords de Seine qu'il n'est nullement excessif de qualifier d'impressionniste, avec le village de Médan, la propriété de l'écrivain, la maison de Verneuil, l'île et le Paradou, et les barques des canotiers, et les vieux ponts de Poissy, photos de famille bien sûr, les photos des enfants, de multiples photos de Denise et de Jacques, avec ou sans leur mère. La vie privée donc et ses petits bonheurs quotidiens, l'illustre écrivain avec son chien, faisant de la bicyclette, juchant au haut d'une meule de foin, etc., etc. Photos de touristes, avec de gros guillemets bien sûr, en Angleterre, même si l'exil fait traverser au romancier une période particulièrement difficile. Photos de curieux, photos de badauds impressionnés pendant l'exposition universelle à Paris en 1900, avec ses grandioses architectures favorisant des angles inattendus que l'on trouvait déjà dans la peinture d'Acaillebotte. Photos de Paris aussi, nullement les quartiers les plus mésirables, les plus sordides de la capitale, mais l'avenue du Bois, le lac du Bois de Boulogne et ses cygnes, le parc Monceau, les buts de Chaumont. Toujours, cela me semble évident, une quiétude, même lorsque par ailleurs la vie publique et privée de l'écrivain n'est pas particulièrement simple et paisible. Les clichés égrènent les moments privilégiés d'un bonheur tranquille. Il serait véritablement vain de vouloir les dramatiser, Michel Tournier a raison de souligner que le Zola photographe n'est nullement l'ombre du Zola romancier. Zola photographe n'enquête pas, il contemple, il aime, il s'enchante de jardin, d'eau et surtout de visage. Pour lui, la photographie répond à une fonction de célébration. Fondamentalement, la photographie réconcilie Zola avec le réel qu'elle pacifie profondément. Voyez par exemple, c'est une photo d'Angleterre, le beau cliché du pont de Walton, si lumineux et si tranquille, si radieux et si paisible. À le contempler, on commence à comprendre que par définition, la photographie telle que la pratique l'écrivain ne saurait être naturaliste, en ce sens qu'elle semble bien à cette photographie n'avoir d'autre finalité que d'adoucir et d'apaiser le réel, que de l'apprivoiser et de l'amadouer, effacer et désamorcer par avance toutes ses possibles violences. Désormais, la photographie atténue et calme le réel, que l'écriture, par contre, cherchée par tous les moyens, a intensifié. Pour mieux mesurer à quel point les photographies de Zola ne sont pas naturalistes, il suffirait de les comparer, par exemple, au cliché de Jeanne Hadjet, qui sera en France le premier véritable photographe naturaliste. Vous savez bien qu'Hadjet parvient toujours à conférer une inquiétante étrangeté à ses vues de Paris, dont la trop apparente banalité, le trop évident prosaïsme, la trop flagrante impassibilité recèlent en fait d'angoissants mystères. Leur superbe détachement accroît prodigieusement leur sensibilité, leur indifférence même leur permet de détecter et d'amplifier les plus faibles variations d'intensité du milieu urbain. Ce n'est pas sans raison, remarque Benjamin, qu'on a comparé les vues d'Hadjet à celles d'un théâtre du crime. Dans nos villes, est-il un seul coin qui ne soit un théâtre du crime, aucun passant qui ne soit un criminel? Héritière des augures et des aruspices, la photographie ne doit-elle pas, sur ces images, découvrir la faute et désigner le coupable? C'est justement cette dimension proprement criminelle qui manque au cliché de Zola, si profondément innocent, si cathartique, puisqu'il retrouve sans cesse une sorte de fraîcheur, quasiment une virginité du réel, comme purifié de toute mauvaise intention par le geste photographique qui rend une nouvelle jeunesse à tout ce qu'il reproduit et peut-être à l'opérateur lui-même. C'est pourquoi comprendre le statut de la photographie chez Émile Zola, sa subjective nécessité, analyser les raisons pour lesquelles l'écrivain ne pouvait que devenir photographe, objectif infiniment plus important que de prétendre évaluer esthétiquement cette production photographique, impose d'abord d'admettre tout ce qui la sépare, tout au moins dans ses résultats et ses effectives réalisations, de l'écriture descriptive des Rougon-Macquart. Il faut absolument prendre en compte cette évidente distorsion qui fait que le photographe agira fort différemment de l'écrivain, au point que rien n'illustrerait plus faussement, plus anachroniquement, cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire que les tardifs clichés de celui qui enfuit l'écrivain. Impossible dès lors de se contenter de mettre en parallèle, d'un point de vue essentiellement et objectivement visuel, l'œuvre littéraire et le corpus photographique, afin de les évaluer l'un par rapport à l'autre en termes d'illustration, de documentation, d'adéquation et de conformité référentielle. La photographie zolienne, dont on ne répétera jamais suffisamment qu'elle constitue de toute façon une pratique intime et privée, n'a nullement pour enjeu de faire voir, ou plutôt revoir après coup, ce qu'elle avait déjà si bien montré l'œuvre littéraire elle-même. Peut-être faut-il même aller jusqu'à immédiatement poser que, fantasmatiquement parlant, l'enjeu premier des photographies de Zola n'est pas purement, n'est pas uniquement visuel. Il n'aurait pas suffi que l'appareil photographique fût une merveilleuse machine à produire des images pour que le romancier décida de s'y intéresser aussi intensément, de s'y consacrer aussi sérieusement. La pratique photographique de l'écrivain ne se réduit pas à une sorte d'éclatante confirmation a posteriori de cette pulsion scopique déjà à l'œuvre dans toute son œuvre. Ce n'est pas simplement en tant que fabuleux dispositif mimétique que la photographie pouvait à ce point fasciner Zola. Après tout, et tout bien considéré, pour ce qui est de l'œil, du coup d'œil, son écriture ne se suffisait-elle pas déjà amplement à elle-même? Pourquoi donc aurait-il un jour cru que la photographie faisait mieux voir que tout le reste? Pourquoi aurait-il désiré célébrer un pareil reniement de tout son travail d'écrivain? Il fallait bien qu'un autre enjeu, et de taille et décisif, intervint pour que l'écrivain décida de s'investir aussi studieusement dans la pratique photographique. Ce n'est plus un secret pour personne qu'historiquement l'imaginaire photographique est on ne peut plus lié au familial. Dès ses origines, la photographie trouve son site privilégié dans le cercle de famille, justement au moment où la famille elle-même désormais nucléaire, se réduit et se referme étroitement sur son noyau central. De fait, Manfred Graffi de Zola ne font que confirmer cette règle qui veut que la famille existe, s'affirme d'autant plus qu'elle est photographiée. Quantitativement, les photos de famille occupent une place plus qu'importante dans sa production. À condition de bien préciser qu'il ne peut y avoir de véritables photos de famille, qu'il ne peut même y avoir d'actes photographiques, et quel qu'en soit par ailleurs le sujet apparent, un paysage ou une locomotive, que pour autant que les descendants s'est assuré que Daunis et Jacques impressionnent effectivement les clichés. Privés, on ne peut plus priver, les photographies de Zola nous conduisent alors à une constatation relativement prosaïque et banale. Comme tant d'autres, qui eux n'ont jamais écrit la moindre ligne, l'écrivain se réjouit de photographier sa descendance, se consacre d'autant plus passionnément à la photographie que ses sujets peuvent enfin en constituer le sujet privilégié. Que ses enfants peuvent enfin en constituer le sujet privilégié. Soit, il n'en demeure pas moins qu'il reste à comprendre pourquoi et comment la photographie, en tant que technique mimétique, en tant que processus de reproduction de l'image, va si bien convenir à celui qui avait passé son temps précédemment à mettre en scène les terribles et destructeurs dérèglements mimétiques du familial, les catastrophiques dysfonctionnements du généalogique. Pourquoi le photographique convient-il si bien au familial ? Pourquoi l'image photographique, en dernière instance, arrange, et en tous les sens, si bien la famille ? Comment parvient-elle à réparer tous ces désastres familiaux que ne s'était jamais lassé de concevoir et informe nécessairement la photographie en tant que telle ? Plus inquiétant, plus grave encore, faut-il considérer que la familialisation est fatalement consubstantielle du processus photographique lui-même ? Dans la perspective d'une telle problématique, il ne serait sans doute pas inutile de rappeler que lorsqu'avec l'aide de Miller, Edward Station conçut et organisa en 1955 au Musée d'art moderne de New York une très célèbre exposition collective internationale, il l'intitula justement, en reprenant une expression de Lincoln, « La famille de l'homme ». Il y a donc une espèce d'originelle vocation familiale de la photographie qui se généralise à travers toute l'humanité visée et désirée, à travers même la pluralité et la diversité des productions nationales. Les hommes, une fois photographiés, deviennent un cercle de famille. Une fois photographiés, nous faisons tous partie de la même grande famille. De telle sorte que la photographie n'aura alors d'autre visée que l'intégration familiale de l'ensemble de l'humanité. Un tel humanisme photographique, qui s'appuie plus ou moins consciemment sur un familialisme naturalisé par le culte domestique de la photo, qui fait de l'extension de la mimésis un opérateur de familialisation, n'aurait pu que profondément satisfaire le Zola devenu photographe, le Zola des quatre évangiles. On pourrait en faire la démonstration, qui va subir un coup d'accélérateur absolument fabuleux, on pourrait en faire la démonstration en opposant deux romans volontairement choisis aux extrêmes de la carrière de l'écrivain, avant et après les Rougon-Macquart, d'un côté Madeleine Ferrand en 68, et de l'autre Fécondité en 99. Deux romans dans lesquels la photographie va intervenir en tant que telle. Le premier roman date bien sûr de l'époque où Zola lui-même ignore encore qu'il fera un jour de la photographie, et la photo aura un rôle néfaste et même désastreux dans ce roman de la déchéance conjugale et familiale. Par contre, le second roman est conçu et écrit au moment même où il fait énormément de photographies, et la photographie, discrètement présente, mais en un point fort sensible du récit, aura symptomatiquement un rôle consolateur et réparateur dans une fiction qui constitue pour l'essentiel un éloge de la fécondité familiale. Ne ferait-on pas d'autant plus de photos quand on écrit écrivain que dans le texte lui-même, la famille tourne à plein régime ? Alors vous vous souvenez que Madeleine Ferrat a d'abord eu Jacques pour amant pendant toute une année, elle semble désormais avoir trouvé le bonheur avec Guillaume. Tout va pour le mieux entre les deux amoureux, quand un matin désœuvrement, Madeleine se met à feuilleter un album de photographies qui traînait sur un meuble et qu'elle n'avait pas encore aperçu. Son amant avait retrouvé la veille cet album au fond d'une malle. Il ne contenait que trois portraits, ceux de son père, de Geneviève et de son ami Jacques. Quand la jeune femme aperçut ce dernier portrait, elle poussa un cri sourd, les mains appuyées sur les feuillets ouverts d'album, toute droite, frémissante. Elle contemplait le visage souriant de Jacques d'un air épouvanté, comme si un fantôme venait de se dresser devant elle. C'était lui l'amant d'une nuit devenu l'amant d'une année. L'homme dont le souvenir endormi dans sa poitrine s'éveillait et la déchirait cruellement à cette brusque apparition, etc., etc. Donc très brutalement, très indécemment, la photographie ressuscite le passé, fait violemment revenir le souvenir de celui qu'on espérait définitivement oublier, réactive puissamment le refouler. D'un strict point de vue conjugal et familial, dans Madeleine Ferrat, rien de plus catastrophique que le surgissement d'une telle photo. Le retour de l'image dérègle et désunit le couple, car sa ressemblance réveille, réanime les vieux désirs charnels endormis dans le corps de l'amante. Elle rappelle et stimule les anciennes voluptés révélées par le premier homme connu. Je résume très vite. Vous vous souvenez sans doute que le cliché va d'ailleurs autoriser un adultère proprement photographique lorsque la jeune femme se relève la nuit pour aller ouvrir l'album et s'asseoir devant le portrait de Jacques. Donc une espèce de cas de possession photographique, d'envoûtement photographique dans Madeleine Ferrat. Mais pour tout aggraver, ça m'intéresse un peu plus. Guillaume, parce qu'il croit que Jacques, qui fut autrefois du temps du collège son meilleur ami, a tragiquement péri dans un naufrage, eh bien Jacques, de façon relativement irresponsable, fait pieusement encadrer son portrait et l'accroche dans la chambre à coucher elle-même. Une présence à ce point troublante et voyeuriste que Madeleine n'ose même plus montrer sa nudité devant cette simple image. Il se perd donc dans l'imaginaire de Madeleine une contraignante fixation à la photographie, à cette photographie-là qui est accrochée dans la chambre à coucher, à cet unique cliché, et je souligne unique, à cet unique cliché qui va irrémédiablement séparer le couple. Maléfiquement fétichisée dans son unicité, la photo se révèle alors éminemment néfaste. Car il n'en reste vraiment qu'une, celle de Guillaume. Madeleine, quant à elle, foncièrement honnête, s'était fait un devoir la veille de son entrée dans le pavillon retiré abritant les amours du couple de brûler la carte photographique toute pareille qu'elle possédait. Avant même l'amant, c'est d'abord le cliché en tant que tel qui ressuscite, programmant déjà le futur retour de Jacques. Sans nul doute, la photographie est ici d'autant plus négative qu'il n'en reste qu'une, qu'elle fait régressivement retour à l'exemplaire unique, comme si, imaginairement, elle appartenait encore à l'ancienne économie du daguerreotype, déjà complètement révolue et archaïque à l'époque de Madeleine Ferrat. La photographie, qu'on ne pourra plus alors dissocier de l'usage du négatif, autorisant sa production en série, ne parviendra à fonder sa positivité que dans la logique de son infinie reproductibilité, qui ne sera pas sans rapport chez Zola avec l'inépuisable fécondité de la femme. Tout vient donc se bloquer sur un unique cliché dans Madeleine Ferrat, qui est aussi, justement, le roman de la mauvaise transmission héréditaire de la ressemblance. Le roman de la photo maudite est aussi celui du pire dysfonctionnement de la ressemblance familiale. Vous vous rappelez des faits, un jour Guillaume, épouvanté, s'aperçoit que l'enfant qu'il a eu avec Madeleine, la petite Lucie, c'est-à-dire Lux, la lumière, la fillette en tant que produit de l'action de la lumière, un enfant cliché en somme, il s'aperçoit que la petite Lucie, en fait, tous les traits physiques de Jacques, son premier amant. Conformément à la théorie dite de l'imprégnation, suivant laquelle de deux empreintes qu'elles reçoivent successivement, une femme n'imposera que la plus forte à sa descendance, la puissance physiologique de la première liaison, qui a définitivement informé le corps de la femme, l'a emporté sur la transmission de la semence par le géniteur réel. La fécondation n'a pas réussi à imposer l'image du vrai père. Lucie, c'est en quelque sorte un portrait raté, pire encore, scandaleusement trafiqué. La génétique a lamentablement déraillé du point de vue de la mimétique. Nul hasard si le romanesque rassemble alors dans une même fiction la catastrophe photographique et la faillite généalogique. Le désastre est complet, évidemment, quand s'éteint, on ne saurait mieux dire, la petite Lucie, emportée par une mauvaise fièvre. Le maléfice photographique va jusqu'à interdire la descendance. On pourrait continuer d'ailleurs cette démonstration en se demandant qu'est-ce qu'est la noiraude, le laboratoire, montrer que tout sort de la chambre noire, etc. Ici, je me permets d'écourter quelque peu pour en arriver immédiatement à l'opposition avec fécondité. Donc, 30 ans plus tard, paraît fécondité, qu'il faut lire comme une réparation des précédentes défaillances de l'appareil généalogique. Fécondité, c'est la réparation symbolique de Madeleine Ferrat, livre de l'impouvoir. Guillaume était dans le roman ancien un nom stérile, marque blanche qui ne fait pas souche. Guillaume sera dans le roman nouveau, la semence qui trompe la mort, puisque Charlotte, enceinte de Blaise, le fils de Mathieu qui vient de mourir, met au monde un petit Guillaume, le cadeau de son mari mourant, l'enfant qui ressuscitait le père, qui semblait le rendre à sa tendresse d'épouse. Alors nous, la photographie va être à nouveau convoqué dans ce texte de Zola et de façon hautement symbolique, de mon point de vue. Personne n'a oublié le tragique destin de Morange dans Fécondité. Il va perdre sa femme Valérie, il va ensuite perdre sa fille Reine, dans les mêmes conditions, dans les conditions d'avortement dramatique. À chaque fois, Morange refuse le développement de la famille. Il est quelque peu désespéré, entre guillemets. Que fait-il alors de son temps et de son argent? Privé de descendance, il ne lui reste plus que les images, que le substitut photographique. Après sa mort, on découvre en effet, dans son appartement, une étrange chapelle photographique, je cite, « où la folie manifeste fut prouvée, ce fut dans la chambre à coucher, changeant en musée du souvenir, les murs couverts par les photographies de sa femme et de sa fille, en face de la fenêtre, au-dessus d'une table, le mur disparaissait. Il y avait là cette sorte de petite chapelle qu'il avait autrefois montrée à Mathieu, les portraits de Valérie et de Rennes, au même âge de 20 ans, tels que des sœurs jumelles, occupant le centre, entourés symétriquement d'un nombre extraordinaire d'autres portraits, encore de Valérie, encore de Rennes, enfants, jeunes filles, femmes, dans toutes les positions, dans toutes les toilettes. Et là, sur la table, ainsi que sur un autel de religieuses offrandes, on trouva plus de 100 000 francs en monnaie d'or, en monnaie d'argent, sous même un gros tas, la fortune qu'il économisait depuis tant d'années, à ne plus manger que du pain rassis comme un pauvre. » Donc, dévot fervent de ces deux sœurs disparues, dont il assume à lui seul tout le culte funéraire, Morange, en bonzolien, n'a trouvé d'autres substituts pour compenser leur absence que les photographies. Toute une galerie de portraits, d'innombrables portraits, seule consolation disponible en lieu et place de celles qui moururent tragiquement pour avoir égoïstement refusé l'exaltante, entre guillemets, aventure de l'enfantement et de la lignée. L'adéquation est donc plus claire et explicite ici. La folle multiplication des clichés remplace non seulement les deux mortes, mais aussi toute la famille qu'elles auraient pu fonder. L'innombrable déploiement des photographies sur les murs du sanctuaire, jalousement conservé et entretenu, préfigure négativement, en ce sens qu'il n'en est que le négatif, le fastueux portrait de famille qui clôt le roman. Valérie et Rennes, photographiées à tous les âges, dans toutes les toilettes, dans toutes les positions, comme si leurs infinies variations physiques et vestimentaires avaient pour fonction de figurer et d'illustrer la famille qu'elles ont refusée. Seule la photographie est encore capable de donner au malheureux Morange une idée de toute cette descendance qu'il aurait pu développer s'il n'avait pas autrefois préféré refuser tout tirage d'une filiation qui ne demandait qu'à venir au jour. Donc, pour avoir refusé l'enfantement, Morange a lamentablement échoué, là où les bien nommés Froment ont admirablement réussi, créant une énorme lignée. Une pullulante lignée, ne cesse de dire le texte zolien. De fait, nul autre qualificatif ne saurait exactement désigner cette innombrable foule de couples, ces envahissants troupeaux d'enfants, ces fourmillantes tribus de petits-enfants issus d'une même souche. Mais désormais, ce pullulement, qui précédemment avait toujours été associé chez Zola à la nausée de la surabondance, à la répugnance du pléthorique, à l'excès du grouillement, ce pullulement désormais est incontestablement positif et bénéfique. Désormais, la multiplication de la famille, parce qu'elle s'effectue sans le moindre détraquement dans l'appareil généalogique, est parfaitement heureuse et harmonieuse. Or, en termes de mimésis, seule l'infinie prolifération des photos, aussi bien des différents clichés que des innombrables épreuves qui peuvent être tirées d'un même négatif, donc seule l'infinie prolifération des photos pourra véritablement être à l'échelle, à la mesure de ce prodigieux déploiement de générations. Mimétiquement parlant, la photographie est illimitée, comme est quasiment inépuisable la fécondité conquérante de Mathieu et Marianne Froment. Maintenant que dans sa nouvelle économie généalogique, le texte zolien n'est plus effrayé par le nombre, qui est devenu une vertu, maintenant que le surnombre n'effraie plus, il convient que corresponde à ce pullulement familial un pullulement proprement mimétique, qui va être assuré par la photographie possédant l'énorme avantage de produire rapidement et massivement de la ressemblance, telle que doit également la produire en bon régime la transmission héréditaire, le patrimoine génétique. Nul doute qu'à l'époque de fécondité, Zola doit être fasciné par le caractère infiniment répétable et absolument inépuisable du geste photographique. On peut tout photographier autant de fois qu'on le désire, on peut de toute façon tirer une infinité de positifs d'un seul négatif. Voyez plutôt les multiples portraits qu'il fait de Jeanne Rosereau, de Jacques et de Denise. La célébration de la famille, de la vraie famille, c'est-à-dire celle au sein de laquelle la descendance est assurée, suppose une fécondité de l'image elle-même qui se doit d'être facilement et rapidement reproductible, productible et reproductible. On peut constater, pour conclure rapidement, on peut constater que lorsque Zola s'intéressait plus à la peinture qu'à la photographie, ce pullulement d'étoiles dans les salons, dans les différents salons, en fait, le dégoûtait, l'inquiétait. Zola n'arrête pas de dire chaque année, cette année il y a 3000 toiles, maintenant il y en a 4000, l'année prochaine il y aura 8000, etc. Il y a toujours cet effarement de Zola devant la multiplication d'étoiles au salon. Trop c'est trop du point de vue Zola. La qualité s'anéantit dans la masse, le nombre tue l'originalité. Tout finit par se ressembler, est s'équivaloir dans une indistinction généralisée. Et à la date, Zola souligne que la photographie, quant à elle, ne fait qu'aggraver la situation. Qu'est-ce que souligne Zola 30 ans plus tard? Vous le savez, il retourne au salon, est effrayé par la nouvelle esthétique picturale. C'est un étonnement, c'est un désappointement. Désormais, la note claire des impressionnistes a été amplifiée, généralisée. Elle est insupportable aux yeux de Zola. Je le cite, bref instant, « Les toiles ne sont que juxtaposition de taches, ou des taches blanches, ou des taches noires. » Noir sur noir, blanc sur blanc, précise Zola. Autrement dit, vous n'avez jamais de noir et de blanc, tel que, bien sûr, l'autorise la photographie. On commence alors à comprendre que désormais la photographie représentera le modèle, aussi implicite que prégnant, de l'imaginaire mimétique de Zola. Elle constituera pour lui la référence obligée, alors que la peinture ne sera plus tolérée en tant que telle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une espèce, dans la peinture de cette époque, aux yeux de Zola, il y a une espèce de dispersion, d'éclatement de la lumière. Cette nouvelle peinture, en somme dégénérée, et Zola ne supporte pas cette absence d'une pacification de la lumière. On n'ignore pas en effet que dans sa totalité, l'héliographie zolienne n'aura aussi systématiquement décliné tous les morcellements et tous les éclats, toutes les réfractions et toutes les diffractions de la lumière, que comme autant de blessures du miroir, s'inscrivant au compte des défaillances et des dysfonctionnements familiaux. Si désormais, à l'époque des fécondités, l'appareil familial est correctement réparé et restauré, il convient que s'opère simultanément une stabilisation de la lumière dans l'image, enfin effectuer sereinement un réglage, un équilibrage, une compensation des luminosités dans le même de la mimésis. Or, quelle technique peut mieux que la photographie, tout au moins un certain usage de la photographie, assurer une telle harmonisation de la lumière? Car si toutes les photographies d'Émile Zola me semblent bien témoigner d'une constante, c'est sans nul doute dans leur volonté jamais démentie d'équilibrer l'éclairage, de le pondérer et de l'adoucir. Toutes les couleurs de la peinture, désormais incontrôlées et déchaînées, ne vaudront jamais la douce quiétude, à la fois mimétique et familiale, la banale cliché de famille. Accordons quand même à Zola qu'il s'était suffisamment battu avec le réel pour avoir un jour le droit de céder à la tentation de se réconcilier avec lui. Dut-il en passer par la photographie au détriment de l'écriture? Je vous remercie.
Merci. Bien, merci donc à M. Alain Buisine. Peut-être pour grouper les interventions, je vais demander tout de suite à John Lambeth, professeur à l'université Washington and Lee, de venir faire sa conférence. Et ensuite, nous regrouperons les questions sur ces deux interventions. Donc, John Lambeth, qui va nous parler de Zola et Emerson, le naturalisme dans la photographie.
J'ai pris pour plus tard, je vais le passer.
Moi, je ne connais pas très bien. Je vais le passer. Vous avez des choses très intéressantes.